Chapitre 3. Alors commencèrent pour Hélénie des jours d'inénarrable torture, d'incessante surveillance sur son aïeul. Elle l'avait toujours connu bizarre, elle le savait imbu d'idées révolutionnaires, mais tout en souffrant douloureusement de le voir en cet état d'esprit, elle pensait qu'il était du nombre de ces théoriciens qui se contentent de discourir beaucoup en s'arrêtant soigneusement au seuil dangereux de la propagande par des actes. Et voilà qu'elle apprenait que cet aïeul était un criminel, le complice, sinon l'instigateur, de celui qui avait tenté de tuer le roi d'Esthénie. Hélénie avait déjà beaucoup souffert en sa vie, mais jamais elle n'avait enduré de semblables déchirements. Savoir menacer à chaque instant, par quelque lâche attentat, l'existence du jeune souverain pour lequel elle eût donné la sienne sans hésitation, et ne pouvoir le prévenir parce que le criminel était son grand-père, elle n'avait de refuge et d'espoir que dans la prière. Son âme torturée se répandait chaque jour devant la reine du ciel, et de ses entretiens célestes, elle sortait un peu réconfortée, un rayon d'espoir au fond du cœur. Les nuits se passaient dans une veille anxieuse. Sans cesse, elle prêtait l'oreille au moindre bruit, et en 15 jours, elle avait tellement changé que Léniaud lui disait avec inquiétude « Mais tu es malade, Hélénie, ma pauvre chérie !» Un soir, vers 11 heures, elle perçut au dehors comme un pas léger. Elle ouvrit doucement sa fenêtre, pencha la tête. Oui, quelqu'un s'en allait. Elle passa par-dessus la fenêtre fort basse et avec une légèreté incomparable, elle se mit à suivre la grande forme maigre, bien reconnaissable. Celle-ci se dirigeait vers le pavillon du parc royal, le pavillon du roi Boris. Bientôt, le petit bâtiment apparut. Ses fenêtres ouvertes laissaient voir une pièce brillamment illuminée, au milieu de laquelle, près d'une table garnie de coupes et de bouteilles de champagne, se tenait le roi, en tenue d'officier des dragons rouges et entouré d'un groupe nombreux de jeunes officiers, en éblouissant uniforme des différentes armes. Souriant, la coupe à la main, il semblait leur adresser une allocution, et sa voix vibrante parvenait jusqu'aux oreilles d'Hélénie. Stéphanos s'avança jusqu'à la base du pavillon. Il se pencha et parut déposer un objet. Hélénie, dont le cœur se crispait sous l'empire de l'épouvante et de l'horreur, allait s'élancer. Mais déjà, Stéphanos s'éloignait à grands pas. Alors elle se jeta en avant, elle saisit l'infernal engin, elle s'enfuit au hasard dans la forêt, sans songer qu'elle portait la mort sur elle, qu'un rien pouvait provoquer l'explosion et la tuer infailliblement. Elle déposa la bombe au pied d'un arbre et, vacillant sur ses jambes tremblantes, elle revint vers le logis sans savoir comment elle put retrouver son chemin. Quelques minutes plus tard, une formidable explosion avait lieu dans la forêt et se répercutait jusqu'au pavillon où le roi réunissait, ce soir-là, la récente promotion de l'école militaire. Le lendemain, un garde forestier découvrit les débris de la bombe. Mais toutes les recherches ne purent faire connaître qui l'avait porté là et dans quel dessein. Hélénie, après une nuit passée dans un véritable martyre moral, augmenté par un terrible ébranlement nerveux, avait tenté de se lever vers le matin. Mais malgré toute son énergie, elle était retombée brisée et Léniaud, très inquiète, l'obligea à demeurer couchée toute la journée en déclarant qu'elle était forte aujourd'hui et qu'elle pourrait s'occuper de tout. Hélénie ne sut donc pas quel effet avait produit sur Stéphanos la nouvelle de l'avortement de l'épouvantable attentat. Mais elle le vit le lendemain, plus sombre que jamais, qui s'enfermait dans la petite chambre où, Hélénie le savait maintenant, se préparaient les engins de mort. Et l'atroce surveillance recommença. La jeune fille tremblait chaque fois qu'elle devait aller au village renouveler les provisions. Pendant ce temps, le malheureux pouvait mettre à exécution l'affreux projet qu'il n'avait certainement pas abandonné. Un après-midi, en sortant de chez le boulanger, elle entendit une femme qui disait à sa voisine « C'est aujourd'hui que le roi va à Giltena pour la fête des fleurs. Vous n'êtes pas allée voir ça, Nathalie ?»« Je n'ai pas pu. Ma petite ne va pas bien aujourd'hui. » C'est dommage, car la fête sera magnifique, et puis il y aura le grand-duc de Livonie et sa fille, qu'on dit si belle et qu'on voudrait marier à notre roi. On les verra de tout près, car le roi n'a voulu qu'une petite escorte, malgré l'avis de son entourage, qui redoute toujours les attentats. » Une épouvantable angoisse saisit Eleni. Stéphanos devait être à l'affût de toutes les occasions favorables. S'il allait saisir celle-ci. Les commissions n'étaient pas terminées, mais peu importait. Eleni s'en allait, courant, haletante. Sur le seuil du logis, Johannis et Elon jouaient paisiblement. « Est-ce que grand-père est sorti ?»« Oui, il vient de partir à l'instant, » dit Johannis. Il avait mis sa grande pèlerine comme s'il faisait froid. Oh ciel, ses pressentiments ne l'avaient pas trompé. Sans une hésitation, elle repartit, cette fois dans la direction de la station du tramway électrique. Stéphanos avait dû aller à pied, il fallait qu'elle arrivât avant lui, qu'elle l'attendît au débouché de la route de Volaïna à Miklès. Là, que ferait-elle? Que dirait-elle? Elle ne le savait. Peut-être, dans sa fureur, la tuerait-il? Mais elle tenterait tout pour éviter l'horrible chose qui se préparait. Hélas, il avait dû prendre quelque chemin détourné. En vain, Eleni attendit un long moment. Alors, frissonnante, la tête perdue, elle s'en alla vers la ville. Tout y paraissait tranquille. Les habitants allaient et venaient, très calmes, dans la sérénité de ce bel après-midi très ensoleillé. Oh, ce soleil, quelle ironie! Tout à l'heure, ses rayons radieux éclaireraient un spectacle d'horreur. Dans l'esprit d'Eleni passa soudain la vision du jeune roi si beau, souriant et heureux de l'allégresse de son peuple, et puis... Oh, vision épouvantable! Elle s'arrêta à bout de force près d'un magasin, et tout à coup, elle porta la main à son front en étouffant un gémissement. Une détonation, assourdie par la distance, venait de retentir. Le crime était accompli. Elle demeurait là, sans penser, le visage machinalement tourné vers la devanture où s'étalaient d'artistiques photographies. Au milieu se voyait celle du roi, entourée de sa mère et de ses sœurs. C'était un charmant tableau d'intérieur, image exacte de l'affection très tendre qui unissait les membres de la famille royale. Le geste d'un malheureux exalté venait d'anéantir ce tranquille bonheur et de jeter la douleur dans l'âme de tout un peuple. Cependant, les habitants, qui circulaient toujours, ne semblaient pas s'émouvoir de la détonation. Ils croyaient sans doute à quelques manifestations d'allégresse non inscrites au programme. Soudain, un galop de cheval retentit. Un officier de l'ancien de la garde apparut, très pâle, sans coiffure. « Qu'y a-t-il, Nicolzi ?» s'écria un lieutenant de cuirassiers qui s'en allait paisiblement à pied et passait en ce moment près d'Eleni. Le lancier, d'un mouvement nerveux, arrêta son cheval. Une bombe lancée contre le roi. Sa Majesté et la famille royale ne sont pas atteintes, mais plusieurs officiers et soldats sont morts, d'autres grièvement blessés. Instantanément, l'officier était entouré par un groupe haletant. Les noms, les noms! On ne sait pas encore. Le roi, avec son courage ordinaire, dirige lui-même les secours. C'est une chose affreuse à voir. A-t-on arrêté le misérable? Oui, la foule l'a à moitié assommé. C'est un vieillard encore inconnu. Il repartit au galop. Eleni, dans un mouvement d'ardente reconnaissance, avait joint les mains vers le ciel. Elle n'avait d'abord saisi que cette nouvelle, le roi était sain et sauf. Puis une atroce douleur l'atteignit de nouveau au cœur à la pensée des malheureuses victimes, des deuils affreux qui allaient résulter du crime de son aïeul. Et lui était arrêté, blessé sans doute par la foule curieuse, mort peut-être. Et s'il vivait, ce serait inévitablement la condamnation à mort. C'était la honte, la misère pour sa bru et ses petits-enfants. Comme un automate, Eleni revint sur ses pas. Elle ne sut jamais comment ses jambes fléchissantes avaient pu la conduire jusqu'au logis. Legno, debout sur le seuil, jetant en l'apercevant un cri de terreur. « Eleni, qu'est-il arrivé ?» À bout de force, la malheureuse jeune fille se laissa tomber sur un banc. Une nouvelle épreuve l'attendait, il fallait apprendre à Legno, il était impossible de lui cacher la vérité. Et en quelques mots entrecoupés, elle dit ce qui s'était passé. Lénion n'eut pas un cri, pas un mot, mais une indicible expression d'horreur passa dans ses prunelles et elle s'affaissa sur le sol. Eleni, surmontant énergiquement sa propre défaillance, s'occupa aussitôt de donner des soins à la pauvre créature. Pour celle-ci, si faible, l'affreuse nouvelle était un coup mortel. Le lendemain, dans la matinée, on frappa à la porte. Eleni alla ouvrir et se trouva en face du chef de la police et de ses agents. Il venait perquisitionner au domicile de l'anarchiste. Tout fut bouleversé dans le pauvre logis. Les policiers saisirent les papiers et les pièces à conviction laissées dans sa chambre par Stéphanos. La pauvre Lénio dut quitter sa paillasse, que l'on fouilla comme les autres. En se retirant, le chef de la police informa Eleni que sa tante, les enfants et elle ne devaient pas essayer de quitter leur demeure, sous peine d'être incarcérés à leur tour, afin de se trouver toujours à la disposition de la justice si celle-ci avait besoin de les interroger. Cet avis était superflu pour l'instant, car Lénio était mourante. Elle s'en alla doucement, consolée par les secours de la religion que sa nièce avait été demandée pour elle. Hélène se trouva seule, avec les deux enfants, en face de la noire misère. Qui donc, maintenant, dans ce pays d'Essénie, si attaché à son souverain, donnerait du travail à la petite fille du criminel, auteur de l'attentat qui avait failli enlever la vie au roi Boris? Il n'y avait pas de doute à avoir à ce sujet, rien qu'à la façon dont la pauvre Eleni était accueillie lorsqu'elle se rendait au village pour acheter du pain avec les maigres économies réalisées sur le prix des broderies vendues avant la catastrophe. Un autre sujet d'angoisse tourmentait le cœur si profondément chrétien d'Eleni. Stéphanos n'avait pas été grièvement blessé, la police avait pu le délivrer à temps des mains de la foule. Et la jeune fille songeait à l'âme du malheureux, rongée par la haine, peut-être en proie au désespoir. Que ne pouvait-elle pénétrer près de lui, tenter de toucher ce cœur endurci par des doctrines impies, de faire pénétrer le repentir chez cet être si coupable, devant Dieu et devant les hommes? Cette pensée la torturait, elle devint si puissante qu'elle essaya d'obtenir la permission de voir son aïeul dans sa prison. Mais Stéphanos se trouvait au secret, le règlement était formel, l'humble demande d'Eleni fut durement repoussée. Elle n'avait de refuge que dans la prière. Chaque jour, elle se rendait à la chère chapelle de Notre-Dame de la Victoire, elle s'agenouillait, priait et pleurait devant l'autel, toujours garni de fleurs, et surtout de chèvrefeuilles, écloses en toute saison dans les serres de Volaïna, le roi ayant une prédilection marquée pour cette modeste fleur dont il aimait à faire orner ses appartements. « Elle me porte bonheur, » disait-il en souriant à ceux qui s'étonnaient de son goût. Un après-midi, Eleni prolongea sa prière. La dernière pièce d'argent était partie aujourd'hui, il y avait encore du pain pour 3 ou 4 jours. Ensuite, eh bien, il faudrait demander l'aumône si personne ne voulait faire travailler la petite fille de l'anarchiste. C'était la misère, la complète misère. Et aussi, lui revenait à l'esprit la poignante pensée de cette âme qui lui était interdit de tenter d'arracher à l'abîme. Que faire ? Ô Notre-Dame de la Victoire ! Sauvez-nous ! Sauvez-le surtout ! Près d'elle, Johannis priait avec une ferveur d'ange. Mais le petit Hélos, après être demeuré quelque temps bien tranquille, commençait à remuer en donnant des signes d'impatience. Eleni se leva, elle sortit à regret du petit sanctuaire, où seulement elle trouvait un peu de paix. Au moment où elle allait s'engager dans une allée transversale, elle s'arrêta brusquement. Là-bas arrivaient deux jeunes gens, en élégante tenue de promenade. La cigarette aux lèvres, ils avançaient lentement en causant avec gaieté. « Le roi !» murmura Eleni. Son premier mouvement avait été de se reculer, de s'éloigner précipitamment. Mais une idée soudaine venait à son esprit. Lui pouvait lui donner l'autorisation de pénétrer près de Stéphanos. Ne devait-elle pas, éloignant toute crainte, se jeter à ses pieds pour solliciter cette grâce? Oh, le terrible combat qui se livrait en ces quelques minutes dans l'âme d'Eleni! Pourquoi donc éprouvait-elle tant de peine à accomplir cet acte envers ce souverain qui avait été cependant si bon pour elle et pour une pauvre femme en ce jour jamais oublié? Il allait arriver à quelques pas d'elle. Elle voyait son visage se pencher, intéressé, vers son compagnon, jeune homme à la physionomie intelligente et sympathique, qui parlait avec quelque animation. Oserait-elle tenter cette démarche ? Oui, il le fallait pour le malheureux Stéphanos. Une prière monta de son cœur vers le ciel. D'un mouvement résolu, elle s'avança et se laissa tomber à genoux devant le roi. « Votre Majesté veut-elle écouter la supplique de sa malheureuse sujette ? » murmura-t-elle en courbant la tête. Il avait eu un mouvement de surprise. « Qu'est-ce donc ? Mais relevez-vous donc, » dit-il vivement. Le front d'Hélénie se pencha davantage encore. « La petite fille de Stéphanos Héraclès ne peut se tenir autrement devant votre Majesté. » Le roi recula légèrement. « Ah, vous êtes... Que voulez-vous » dit-il d'un ton soudain glacé. Hélénie leva vers lui ses grandes prunelles bleues qui exprimaient une pathétique supplication, une souffrance poignante. Une légère exclamation passa entre les lèvres du roi. « Mais je vous connais, n'êtes-vous pas cette petite Hélénie qui me demanda autrefois si gracieusement la charité pour une pauvre femme ?»« Oui, sire, je suis Hélénie Héraclès. J'étais sûre de ne pas me tromper, vous n'avez pas changé. Mais relevez-vous, mademoiselle. » Sa physionomie, l'instant d'avant froide et sévère, s'adoucissait tout à coup, exprimait une profonde émotion. Son regard enveloppait avec compassion la jeune fille, maintenant debout devant lui, si amaigrie, si pâle et toute tremblante. « Alors, vous êtes sa petite fille, et vous n'avez pas ses idées ?»« Oh, sire !» C'était une protestation spontanée, ardente, qui s'échappait du cœur d'Hélénie. « En ce cas, vous devez bien souffrir, » dit-il d'une voix légèrement frémissante. « Je vous plains de toute mon âme, mademoiselle. » Et que vouliez-vous me demander ? Elle exposa alors sa requête. Le roi dit sans hésitation : Je ne vois aucun empêchement à vous accorder cette autorisation. Il faut en effet tout tenter pour sauver l'âme de ce malheureux. Avez-vous quelque influence sur lui ? Aucune, sire. J'ai toujours été traité par lui en quantité négligeable. Cependant, peut-être réfléchira-t-il en voyant anéantis ses tristes projets. Peut-être, malgré tout, parviendrai-je à toucher son cœur. Je le crois et je le souhaite bien sincèrement, dit le roi avec élan. Ces enfants sont-ils vos frères, mademoiselle ? Non, mes cousins, sire, ces petits-enfants aussi. Pauvre petit, murmura le roi. D'un geste, il appelait près de lui Hélos qui se pressait, très intimidé, contre sa cousine. Sa main se posa sur les boucles brunes du petit garçon. « Quel joli enfant ! Regardez donc, Elvinco, s'il n'est pas criminel à un aïeul de jeter sciemment dans le malheur de si charmantes et si innocentes créatures » dit-il en se tournant vers son compagnon qui se tenait à quelques pas en arrière. Il demeura un instant pensif, sa main caressant doucement la joue pâle d'Hélos. Puis, regardant la jeune fille, « La petite Hélénie a-t-elle accompli la promesse faite autrefois au roi ? « A-t-elle prié Notre-Dame de la victoire ?» demanda-t-il avec une grave douceur. Une légère teinte rosée monta une seconde aux joues d'Hélénie. « Chaque jour, j'ai prié pour votre majesté, » dit-elle avec simplicité. Sur la physionomie du roi, une émotion profonde s'exprima soudain. « Merci, mademoiselle, vous continuerez, n'est-ce pas, car vous savez combien j'ai été plusieurs fois miraculeusement préservée ?» Et ce soir, vous aurez l'autorisation demandée. Que Dieu vous fasse réussir dans votre œuvre de conversion. » Il se découvrit pour la saluer et s'éloigna, suivi de son compagnon. Le prince Elvinco, pendant l'entretien de son souverain avec la petite fille de l'anarchiste, n'avait cessé de regarder Hélénie, discrètement, mais avec persistance. Au bout de quelques instants de marche, voyant le roi garder un silence songeur, il dit, avec la liberté que lui donnait à l'égard de Boris une amitié ininterrompue depuis l'enfance, « Votre Majesté ne se doute pas que je viens de faire une découverte. »« Laquelle, mon cher ?» demanda le roi d'un ton distrait. « Je suis à peu près certain que cette jeune fille est celle qui empêcha si heureusement d'aboutir l'attentat du mois de mai. » Le roi s'arrêta une seconde en s'écriant vivement : « Le crois-tu vraiment, Elvinco ? Je l'assurerai presque, une si admirable physionomie ne peut se confondre avec d'autres. Les yeux surtout m'ont frappé. J'étais certain d'avoir vu ce merveilleux regard. Cependant, comme je n'ai aperçu cette jeune fille que l'espace d'un éclair, parmi la foule, au moment où elle élevait la main pour détourner le bras du misérable, je n'oserais être tout à fait affirmatif. Il faudra que nous éclaircissions cela, mon ami. L'acte de la petite fille serait un adoucissement au cas de l'aïeul. Et puis cela autoriserait de ma part, en forme de reconnaissance, une aide pour ces pauvres enfants dont l'apparence dénonce une véritable pauvreté. Il faut une extrême délicatesse en la circonstance. On sent que cette jeune fille, d'une distinction à faire envie à bien des reines, souffrirait de se voir offrir un secours ayant l'apparence d'une aumône. Il est de fait que cette jeune grecque semble avoir hérité de la beauté et de la grâce incomparables des héroïnes de l'Hélade. De quelles conditions sont ces Ériclès ? Je ne sais, ce vieillard demeure obstinément muet sur son passé et sa famille. Sa petite fille connaît peut-être quelque chose. Elle sera interrogée lorsqu'il passera en jugement. Pauvre enfant, quelle nouvelle épreuve pour elle ! Murmura le roi avec émotion. Machinalement, il alluma une cigarette, mais il la garda entre ses doigts, tandis que son regard rêveur allait se perdre dans les sous-bois rayés de lumière, comme pour y suivre quelque absorbante vision.